Bonjour, bonjour et bienvenue dans le podcast Wake Up, Rise Up and Shine, le podcast à écouter avant de commencer votre journée. Je suis Christine Levicky, auteure des best-sellers J'arrête de râler et Wake Up, et à travers ces différents épisodes, je souhaite vous partager de nouvelles perspectives. De l'inspiration, bien évidemment, mais aussi des actions concrètes pour vous permettre de vivre la vie que vous avez choisie. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir et le privilège de recevoir le docteur Daniel Flomenbaum pour échanger autour du thème de la sexualité des femmes. Gynécologue de la Faculté de médecine de Paris depuis 1972, Daniel Flomenbaum est depuis toujours activement engagé dans le mouvement d'émancipation de la femme. Elle milite particulièrement au planning familial. Après 12 années de pratique de la gynécologie occidentale, elle étudie la médecine chinoise et l'alchimie sexuelle taoïste et devient gynécologue acupunctrice. Dans le même temps, elle découvre la psychanalyse transgénérationnelle qui met en évidence la notion d'héritage ancestral. Ces nouveaux outils transforme sa vie de femme et sa clinique. Daniel est l'auteur du best-seller « Femme désirée, femme désirante » publié aux éditions Payot et aussi du livre « Les passeuses d'histoire » également publié aux éditions Payot. Alors cet épisode est pour vous si la question de la sexualité vous intéresse. Si vous êtes curieuse de mieux comprendre comment vivre une vie sexuelle épanouie, si vous sentez bien qu'il y a des blocages au niveau de vos désirs et vous aimeriez avoir des pistes pour les dépasser, si vous avez envie de cultiver une relation saine avec votre sexualité et vous espérez pouvoir la transmettre à vos enfants. Dans cet épisode, nous aborderons les points suivants. Pourquoi ne sait-on pas vivre sa sexualité comme on le souhaite? Que veut dire « on aime son homme comme on aime sa mère » et comment parler de la sexualité aux enfants? Alors bonjour Daniel et bienvenue dans ce podcast. Bonjour. Alors bonjour. Alors d'abord, je tiens vraiment à vous dire que je suis très très honorée de vous recevoir. J'ai depuis 10 ans lu une quantité incroyable de livres sur la sexualité
et je dois dire que le vôtre, Femme désirée, femme désirante, m'a beaucoup apporté.
La première question que j'ai envie de vous poser, c'est d'où vous vient cette passion pour la sexualité des femmes?
Ben, ce n'est pas une passion, c'est un intérêt. Vous savez, moi, je suis médecin, donc gynécologue des années 70. La première génération de gynécologues à prescrire la pilule. Tout un mouvement excessivement actif de l'émancipation des femmes, donc des hommes et des femmes. Et donc, cette découverte pour moi aussi de cette sexualité qui n'était plus seulement référée à la reproduction a été une révélation. Donc, ça n'est pas une passion, c'est comme cette révélation a changé ma vie personnelle de femme, automatiquement, je me suis orientée pour permettre aux femmes qui venaient me consulter de leur partager, de leur transmettre mes découvertes pour qu'elles se comprennent mieux et donc qu'elles puissent être plus vivantes et plus heureuses.
Alors, d'ailleurs, dans votre livre, vous parlez de cette idée que les femmes avec la contraception ont pu sortir d'une sexualité exclusivement de reproduction, parce qu'elles ont pu du coup choisir d'avoir du sexe sans tomber enceinte automatiquement, mais que ça ne s'est pas forcément fait, ça se fait pas, c'est pas parce qu'on prend la pilule et qu'on ne va pas tomber enceinte qu'on arrive à s'ouvrir à une sexualité qui n'est pas une sexualité de reproduction. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
Ben, c'est-à-dire que je dis, vous savez, toujours en blaguant, que le mode d'emploi pour vivre sa sexualité n'était pas inscrit dans la boîte de pilules. Et ça veut dire que nous, ma génération, on a cru naïvement qu'automatiquement, on allait savoir vivre cette sexualité de plaisir puisqu'on y avait le droit et qu'on était consentante. Et puis il en a fallu du temps pour se rendre compte que c'était beaucoup plus compliqué qu'on le souhaitait et que on en est toujours là 2 ou 3 générations après pour constater combien savoir vivre cette sexualité est une aventure qui demande beaucoup d'attention et beaucoup de travail personnel.
Alors, qu'est-ce qui empêche les femmes d'accéder à cette sexualité du plaisir? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce que vous avez compris? Où est-ce que les femmes ont le besoin de plus d'aide pour s'ouvrir à cette sexualité de plaisir?
Déjà, il faut qu'elles comprennent et que les hommes comprennent que la capacité de vivre notre sexualité, d'en avoir du désir et du plaisir, s'origine dans notre petite enfance. La façon dont on nous a élevés, dont on nous a accueillis, petites filles, bébés filles, petites filles, comme on nous a parlé de la vie, de la mort, de la reproduction et de cette sexualité, va engager une capacité à pouvoir être dans l'aisance, dans la spontanéité, dans l'ouverture et la curiosité de s'ouvrir à cette vie de plaisir sexuel. Et ce que l'on n'a pas compris, saisi, et ce dont les médias ne parlent toujours pas assez, à mon avis, c'est que cette sexualité, si on n'arrive pas à la vivre, c'est qu'on n'est pas modelé, on n'est pas construite pour savoir la vivre. Parce que pour savoir vivre une sexualité qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir et qui nous fait jouir, il faut il faut qu'on nous ait permis bébé, petite fille, avant de savoir parler, j'ai envie de dire, qu'on ait pu nous permettre d'avoir le plaisir et l'aisance de savoir enlacer, de savoir embrasser, de savoir caresser le ou les partenaires, à savoir qu'on nous a permis de vivre un corps à corps affectif avec notre mère, avec notre père et les gens qui s'occupaient de nous, qui nous a donné confiance. On sait se donner, on sait s'abandonner, on est bien dans sa peau d'homme ou de femme. Alors ça déjà, si on sait caresser, si on sait dire oui à la rencontre, s'ouvrir à la rencontre, savoir être dans l'échange, la communication, ça veut dire ne pas s'enfermer dans sa carapace parce qu'on a peur, parce qu'on a honte, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on en meurt d'envie et qu'on a une mémoire cellulaire qui nous demande d'être respectable et de dire non à la sexualité. On ne va pas savoir s'ouvrir à cette aisance. Il faut savoir, et ça, ben, je ne sais pas comment on va y arriver tout au long de notre entretien, comprendre que nous sommes détenteurs d'un interdit de vivre sa sexualité de plaisir. J'ai presque envie de dire depuis des siècles, en tous les cas réellement depuis la Révolution française, où il y a eu un interdit de vivre ce plaisir sous le toit familial, et du coup, cette notion d'ouverture, d'échange existe par rapport à l'ouverture du cœur, à l'ouverture d'esprit, mais n'existe pas du tout par rapport à l'ouverture du sexe. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, je vous raconte que, petite fille, si on ne sait pas se donner et s'abandonner à un homme, l'embrasser, l'enlacer, être heureuse de ne faire qu'un avec son amoureux, Eh bien, déjà, ça va rendre compliqué le fait de pouvoir continuer l'aventure. Et puis, une fois qu'on sait, si on a eu quand même un maternage suffisant pour être à l'aise dans ses caresses et ses baisers, après, il faut passer à la sexualité, j'ai envie de dire, pas seulement des zones érogènes, mais à la sexualité de la rencontre des sexes. Et là, le sexe de la femme, si elle n'a pas été autorisée si elle n'a pas été éduquée à savoir que ce sexe se prolonge à l'intérieur de son corps, eh ben, elle a un sexe fermé et elle ne sait pas, elle ne ressent pas ou elle a peur d'être pénétrée. Et il n'y a pas ce plaisir et cette rencontre, je veux dire, des caresses extérieures qui se prolongent à l'intérieur du corps par la compénétration des sexes féminins-masculins dans le corps de la femme. Et voilà comment a démarré ma découverte de la transmission de la sexualité et pour permettre, pour apprendre aux femmes ou pour leur permettre de se découvrir dans leur aisance de la rencontre d'un homme et de l'accueil d'un homme et de l'accueil d'un homme dans leur sexe.
Donc, c'est vraiment cette idée-là, c'est cette idée d'assumer le fait que nous sommes des êtres sexuels au-delà du schéma de reproduction et s'ouvrir au ressenti du plaisir et s'ouvrir à la rencontre de l'autre. Et en fait, vous dites ça dans votre livre, vous dites on nous a appris en tant que femme le désir de devenir mère, on nous a appris le désir d'exercer un métier qui nous plaît, mais on ne nous a pas appris à savoir être une femme qui désire. Absolument. Une femme qui désire l'homme et, voilà, et qui sait accueillir son propre désir.
Son sexe, parce voilà. Que les hommes, les femmes, elles désirent un homme, mais elles ne désirent pas leur sexe ou elles le désirent et elles ne savent pas comment faire pour l'accueillir. Donc, on est encore, si vous voulez, dans une problématique pour moi qui me navre énormément parce que si vous voulez, Françoise Dolto, elle a raconté ça bien avant moi. Et on est encore très peu nombreux et nombreuses à parler du fait que cette sexualité se transmet pour savoir la vivre. Elle se transmet dans l'enfance. On ne va savoir accueillir le sexe d'un homme dans notre sexe si on sait que notre sexe se prolonge à l'intérieur de notre corps. Que le sexe masculin il est en dehors de son corps, que la compénétration des sexes se fait dans le corps de la femme et qu'à ce moment-là se passe toute une dynamique énergétique intérieure qui revitalise notre corps parce que cette force sexuelle est une force de vie qui donne la vie, qui la reproduit et qui l'entretient. Et si on sait accueillir cette force sexuelle du sexe, du partenaire dans notre sexe, on est régénéré. Cette force de vie va entrer dans notre corps si on sait l'accueillir et elle va se mettre à diffuser à l'intérieur de notre corps et elle va aller partout si on la laisse aller. Et si on la laisse aller, elle nous défatigue, elle nous régénère, elle entretient nos organes, elle remonte du bas en haut de notre corps pour aller dans la tête, au niveau des organes des sens qui sont éveillés et on va mieux entendre et on va mieux voir et nos neurones vont être nos neurones vont être activés et on va mieux penser. Moi, je dis toujours pourquoi j'apprécie la sexualité, parce qu'elle me donne des idées claires et qu'elle me permet de me sentir vivante.
Alors c'est intéressant parce que on vous le dites très clairement, hein, la sexualité de plaisir est tabou. Et il y a vraiment cette idée de ce que vous venez de nous dire, c'est que on pourrait penser que la seule sexualité qui est utile et donc intéressante et donc valorisée, c'est la sexualité de reproduction. Et on nous a beaucoup appris, en tout cas on a reçu, moi j'ai reçu personnellement beaucoup de messages sur le fait que le plaisir de la chair, c'est mal, que c'est une déviance, que c'est malsain, que c'est une distraction, que c'est des frivolités,
que c'est dégoûtant,
voilà. Donc il y a tellement, tellement de bagages là-dessus, alors qu'en fait ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que la sexualité de plaisir a aussi une fonction de santé et une fonction absolument pas frivole, en fait, vitale.
Régénératrice. Ça, c'est une hygiène de vie qui entretient la santé. Et alors ça, j'ai eu la chance et la grâce de le découvrir dans mes études de médecine chinoise après 12 ans de gynécologie allopathique. Et j'ai été complètement émerveillée de découvrir que ces Chinois de la Chine ancienne m'avaient appris à faire l'amour. C'est eux, parce qu'ils parlent très bien de la sexualité, ils parlent des trajets et ils parlent des effets que ça procure. Moi, ce n'est pas la sexualité pour la sexualité, moi, c'est la sexualité pour les effets que ça procure. C'est-à-dire d'être de plus en plus soi-même, d'être de plus en plus entière et entier, à savoir comment le fait d'accueillir l'énergie sexuelle que l'on n'a pas, parce que cette énergie sexuelle que les hommes contiennent dans leurs testicules et dans leur sexe, celle-là, nous ne l'avons pas. Nous avons de l'énergie masculine, de nos grands-pères, des hommes de la famille, j'ai envie de dire. Mais celle contenue dans les testicules des hommes, nous n'avons pas celle-là. Et savoir en bénéficier dans l'échange, dans la communication, transforme la vie. Parce que on est, comme je viens de le dire, de plus en plus complète, de plus en plus soi-même, on est redressé, on est vivante. Et si vous voulez, pour continuer cet apprentissage de cette médecine chinoise alchimique, ils disent que c'est une hygiène de vie qui entretient la santé parce qu'il s'agit de cueillir le remède. Il est question, alors quand on cueille, si c'est un médicament, c'est pour ça que ça entretient la santé. Ça veut dire que ce que je viens de raconter, que cette force vitale, c'est le remède. Cette force vitale, c'est le remède. Et il est question d'apprendre et de savoir l'accueillir, le cueillir et lui permettre de nous alimenter.
Ok, mais pour ça, ce que vous nous avez expliqué au début de cet épisode, c'est que peut-être qu'enfant, on n'a pas reçu ce confort, en fait, et cette aisance dans la rencontre, dans le ressenti, dans cet exercice, en fait, ça demande une capacité d'ouverture, de ressenti, de présence. Et beaucoup de ce qui se passe, c'est que beaucoup de femmes n'ont pas appris ça et donc sont enfermées dans tout leur schéma de croyances limitantes sur la sexualité, mais aussi enfermées dans un corps qui ne ressent pas, qui n'a pas appris à ressentir et qui du coup est bloqué. On parlait tout à l'heure de carapace. Donc qu'est-ce que peut faire une femme qui nous écoute, une auditrice ou un homme qui souhaite soutenir sa partenaire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour réapprendre à s'ouvrir, pour réapprendre à...
Ce n'est pas réapprendre, hein, c'est apprendre. Il faut comprendre que si nos mères n'ont pas su nous transmettre cette sexualité, c'est parce qu'elles-mêmes ne savaient pas la vivre. Donc, on ne va pas réapprendre, on va apprendre. Et on va apprendre pour que les futures générations sachent la vivre. Si on était dans une société qui avait su vivre la sexualité dans les générations précédentes, eh ben, je veux dire, on saurait la vivre. Là, on est dans une nouvelle configuration sociale. Il y a eu des révolutions sociales. La contraception est une révolution sociale. Le fait de pouvoir ne pas mettre au monde des enfants quand ce n'est pas le bon moment pour nous fait qu'on s'est mis à découvrir que d'être une mère ou d'être une femme, ce n'était pas la même chose. Mmh. Et alors, on n'a pas compris qu'on n'allait pas savoir découvrir ce que c'était que d'être une femme. On pensait qu'automatiquement, on allait pouvoir s'y ouvrir. On avait tellement de chance, puisque nos mères n'y avaient pas eu droit, et nos grands-mères encore moins. Donc, si vous voulez, il est question de comprendre que ce n'est pas un réapprentissage, c'est un apprentissage, c'est une ouverture à du nouveau. Et c'est tellement nouveau qu'il faut savoir... qu'on a à charge de le transmettre à nos enfants. Parce que sinon, nos enfants non plus ne seront pas construits pour savoir vivre cette sexualité. Ça veut dire qu'on ne peut pas penser qu'on va savoir vivre cette sexualité, le désir et l'autorisation de vivre cette sexualité référée au plaisir ne suffisent pas à faire vivre notre sexe. Donc, ça veut dire que nous contenons une mémoire dans nos cellules qui est toujours interdictrice d'oser vivre sa sexualité, d'oser son désir, d'accéder à son plaisir. À toutes les étapes, si vous voulez, mon livre essaye de transmettre les embûches de ce parcours du combattant. Hein. Alors, beaucoup de travail.
Alors, une embûche dont vous faites référence à plusieurs reprises dans votre livre et qui, moi, m'a beaucoup marquée, c'est cette idée de « on aime son homme comme on aime sa mère ».
Bah oui, voilà.
Alors qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, ça veut dire, si vous voulez, avec la psychanalyse, on pense toujours que la femme va choisir un homme comme son père. Et la trouvaille et de Françoise Dolto et de Didier Dumas, qui sont des psychanalystes d'enfants, qui ont compris plus la psychologie et la construction de la sexualité de l'enfant, disent ce que je reprends à mon compte, on aime son homme comme sa mère. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'homme que l'on aime, ça veut dire que l'amour va automatiquement se référer à notre premier objet d'amour. Et notre premier objet d'amour, qu'on soit un homme ou une femme, c'est notre mère. Oui. Et c'est elle qui nous a apporté dans son ventre, dans son corps. C'est elle qui a été notre tout. C'est elle qui nous permet d'arriver sur Terre. Et c'est elle qui est indispensable à l'entretien de notre vie, les premières années de l'enfance, tellement nous sommes 100% dépendants. Alors, il est important maintenant de distinguer la mère et le maternel, parce que maintenant les hommes et les pères prennent de plus en plus leur place dans la naissance de leurs enfants. Et il faut que j'introduise beaucoup plus finement le fait que quand on parle de maternelle, on parle du maternel de la mère et du maternel du père. Parce que quand un père pourvoit aux besoins de ses enfants, c'est du maternel. Et donc, aimer son homme comme on aime sa mère, nous rebalance, nous fait nous connecter automatiquement à ce premier objet d'amour et donc à l'ouverture de notre cœur, l'ouverture de notre sexe, de notre esprit, pardon, mais pas du tout à l'ouverture de notre sexe. Et alors ça va avoir des conséquences très importantes, parce que combien de femmes, et beaucoup d'hommes aussi, à la naissance de leurs enfants, et surtout du premier ou du second, vont être tellement comblés de bonheur par ce nouvel arrivant et cet enfant qui est sortie d'elles-mêmes, qu'elles ont conçu avec cet homme, elles vont perdre le désir pour ce géniteur alors qu'elles sont si heureuses de l'avoir rencontré, elles sont tellement heureuses de l'avoir pour père, elles aiment la complicité, elles aiment le partage, elles aiment la tendresse, elles aiment le cocooning. Et elles n'ont plus du tout envie de leur sexe.
Ça, j'ai trouvé ça passionnant quand j'ai lu ça dans votre livre. Vous dites, tant que l'on aime son homme comme on a aimé sa mère, la femme que l'on devient n'est pas sexuée. C'est ainsi que les femmes peuvent aimer les hommes sans aimer leur sexe. Elles les aiment, mais elles n'ont aucun désir d'être pénétrées. Et ça, c'est quelque chose que vous dites dans ce livre, vous dites vraiment le couple. C'est pas le couple parental. C'est une dimension, le couple parental, mais vous mettez vraiment l'attention sur l'importance du couple sexuel, en fait, et de se dire qu'est-ce qu'on doit faire dans le couple pour créer les conditions favorables pour que la femme se sente sexuelle, sexuée, et qu'elle puisse du coup désirer la pénétration et le sexe de l'homme.
Si vous voulez, c'est pas... c'est-à-dire que, heureusement, souvent et la plupart du temps, les géniteurs sont heureux d'être père et mère, mais pour entretenir la santé, c'est beaucoup moins fatigant de pouvoir être aussi un homme et une femme. Et c'est là tout l'enjeu de l'aisance de la vie où tout le monde va prendre sa place. Si la sexualité, c'est se vivre dans le couple, il y a une façon de se comporter qui est plus vivante, où on est moins fatigué. Si on est moins fatigué, on pense mieux. Si on pense mieux, on apprécie mieux la vie. C'est tellement fatigant, nos vies actuelles. On fait tellement de choses. Mais oui, il faut savoir. Ce que je veux dire, c'est combien, si vous voulez, cette sexualité, elle met en jeu ce que l'on appelle dans le corps énergétique de le corps de la médecine chinoise. Elle met en jeu nos merveilleux vaisseaux. Elle met en jeu nos vaisseaux merveilleux qui sont les vaisseaux embryonnaires qui nous ont construit fœtus. Et à partir de la naissance, ces vaisseaux embryonnaires, ces vaisseaux merveilleux vont servir d'écluse, de vidange, remplir nos vides de fatigue, dénouer les nœuds où on est angoissé, ils vont essayer de nous permettre de tenir le coup dans la vie quotidienne. Mmh. Et ces merveilleux vaisseaux sont à l'œuvre, se mettre à être dans une circulation de dynamique évolutive dans les périodes où on est émerveillé. Alors, il n'y a pas la sexualité qui nous permet d'être émerveillé, de voir un coucher de soleil, un lever de soleil, peu importe, écouter de la musique, tout ce qui nous touche et qui nous émerveille fait circuler nos merveilleux vaisseaux. Mmh. Et donc, ça les vidange, ça les recharge, ça, cette qualité de savoir nous émerveiller nous permet d'accueillir du ciel en nous, de la lumière, de la force de vie qui nous régénère, qui nous informe, qui nous fait grandir, qui nous fait évoluer. Et la sexualité en fait partie.
Mmh, mmh. Alors, on pourrait parler pendant des heures. Malheureusement, on arrive un petit peu à la fin de cet épisode. Il y a quand même un sujet que... J'ai encore deux questions pour vous. Je vais les mettre en une. La première, c'est les femmes qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire concrètement pour faire de la place à la femme ? À la femme sexuée dans leur vie? Est-ce qu'il y a une pratique, quelque chose, un conseil que vous pourriez leur donner pour commencer, quelque chose de concret qu'elles peuvent faire dans leur vie? Et le deuxième sujet, c'est ensuite, on parle beaucoup de la transmission des mères à leurs enfants. Et donc, comment parler de la sexualité aux enfants?
Ah, vous voulez que je vous raconte ça en 30 secondes?
Peut-être pas 30 secondes, mais je sais que
mais
ça...
Je crains, même si je me sens compétente, je crains d'être un peu trop limitée dans le temps. Que faire? Vous savez, je dirais dans un premier temps, il faut vraiment oser reconnaître qu'on ne sait pas vivre sa sexualité. Déjà, une prise de conscience honnête pour dire on n'y arrive pas, on ne sait pas, on ne comprend rien ce qui nous arrive. On ne comprend pas, personne ne fait exprès de ne pas savoir vivre sa vie émotionnelle, affective, sexuelle. On ne comprend rien à ce qui nous arrive. Et bien déjà, si on reconnaît, on va pouvoir s'ouvrir à se dire, bon alors, comment je vais m'y prendre? Comment je vais m'y prendre pour oser mon désir? Et comment je vais avoir du désir? Vous savez, c'est terrible, hein, si on n'a jamais été propulsé pour oser la découverte de sa vie individuelle. Déjà, si on n'est pas séparé de sa mère, eh ben ça va, on est comblé en général. Hein. Moi, c'est une cliente qui disait, mais moi, j'étais mariée à mon père et ma mère, comment je pouvais trouver un homme? Elle pensait que la vie, c'était de rester avec eux. Mais la vie, c'est pas de rester avec ses parents. La vie, c'est d'aller faire son chemin pour aller de l'avant dans son désir de s'accomplir et de se réaliser. Alors, il ne faut pas rester un enfant et un bébé. Il faut y aller. Donc, que faire? Déjà, une prise de conscience, une honnêteté en disant, bah, finalement, moi, je ne vis pas la vie que je souhaite. La vie sexuelle que je souhaite, eh ben, j'y arrive pas. Hein, j'aime mon homme, je suis heureuse de mes enfants. Et finalement, on ne prend pas notre pied comme on aurait envie. Et vous savez, c'est comme ça que j'ai créé mes ateliers. À la sortie de mon livre, j'ai été inondée de demandes de consultations individuelles que je ne pouvais pas honorer. Et je n'ai pas osé comme ça répondre que je ne pouvais pas recevoir et accueillir ces demandes de ces femmes. Et j'ai créé mes ateliers. C'est la 12e année que je fais des ateliers où on parle d'où on en est de sa vie de femme et de sa vie sexuée. C'est un tour de parole et un moment où moi, je fais un travail énergétique parce que je pense que pour justement arriver à s'accomplir dans sa vie sexuelle, il faut se remodeler son corps d'énergie, remodeler son image du corps, permettre à notre sexe de faire partie de nous, qui oui. devienne le nôtre. Si notre sexe devient le nôtre, on saura le faire vibre.
Hein, tout ça, à fait.
Il n'y a pas besoin d'avoir des méthodes à jouir. C'est complètement... c'est très triste pour moi.
Oui, c'est très, très vrai. C'est très, très vrai ce que vous dites. C'est le sexe de la femme n'est pas vivant en elle. Les femmes sont coupées de leur sexe et malheureusement, elles ne se rendent pas compte à quel point il y a de la puissance et de la santé et de la vie dans ce sexe. Et donc, voilà, la première chose à faire,
c'est permettre de d'habiter sa peau de femme, d'être heureuse, d'être une femme, de se respecter en femme, de découvrir la... de découvrir notre conformité. Hein? Et je veux dire, on est différents, on est complémentaires des hommes, et c'est ça qui est intéressant. C'est pas la peine d'être tous pareils. Si on est tous pareils, on peut plus se désirer.
Alors, voilà. je vais juste, dernière petite chose, quelles sont les phrases qu'on peut utiliser pour parler de la sexualité à nos enfants? Parce que c'est quand même un sujet, je pense, qui va intéresser les auditrices.
Eh bien déjà, il faut dire à nos enfants que la sexualité, elle existe. Mmh. Elle fait partie de la vie. Elle donne la vie et elle l'entretient. Déjà que moi, je n'ai jamais entendu dans ma famille un mot sur la sexualité. Je ne savais pas que les adultes faisaient l'amour. Je n'avais aucune idée. Je savais qu'on faisait des bébés, oui, et que c'était vraiment formidable. Mais c'est tout ce que je savais. Donc, si vous voulez, c'est mon ignorance familiale. Moi, je n'ai pas oublié que j'étais si vexée de rien savoir du tout. Et c'est pour ça que je milite pour une ouverture à témoigner à nos enfants qu'ils ont un sexe. Alors, comment on dit à une petite fille qu'elle a un sexe? Eh bien, au moment de la toilette, on lui a raconté qu'elle avait 5 doigts de main, 5 doigts de pied et tout ce qui est des yeux. Eh bien, elle a un sexe. Elle a un sexe, elle a une vulve. Elle a une vulve avec un bouton qui s'appelle le clitoris. Elle a des orifices du pipi, des orifices du caca. Mais elle n'a pas que des orifices pour éliminer des produits qui ne servent plus à rien pour son corps. Il y a l'orifice de son sexe. Et c'est l'entrée du vagin. Et dedans, nous, notre sexe, il est dedans. Et dedans, il y a cette poche à bébé qui s'appelle l'utérus. Et il y a sur les côtés les ovaires. Et ben voilà, elle sait comment elle est fabriquée. Ça, on dit ça à une petite fille. Et on dit à un petit garçon qu'il a des boules, que ces petites boules qui sont contenues dans ses bourses donnent la vie. Parce que son pénis, lui, il le connaît. Il peut le toucher, ça lui fait du bien. Il sait, lui, le petit garçon qui va pénétrer un corps. Mais il ne sait pas qui donne la vie. Et on en est toujours aux hommes qui ont du mal à se mobiliser pour savoir s'ils ont envie de devenir père pour leur paternité. Et aux femmes, on en est toujours aux difficultés de se faire pénétrer.
Super, c'est vraiment passionnant, hein. Je vois le temps passer, j'ai encore tellement de choses, je trouve ça tellement passionnant, malheureusement il faut qu'on arrive à la fin de cet épisode. Je suis curieuse, comment est-ce que les auditeurs peuvent vous suivre, découvrir vos ateliers, vous écouter, comment rester en lien avec vous ou vous retrouver?
Déjà lire mon livre, Femme désirée, femme désirante. J'ai un site... dont je ne sais pas très bien m'occuper, mais qui existe, qui s'appelle daniel.flumenbaum, je crois. Je suis la présidente d'une association qui s'appelle le Jardin d'idées, donc jardindidées.org. On peut aller voir les activités que je propose, qui sont une école de psychanalyse transgénérationnelle, des conférences, le taoïsme, c'est multidisciplinaire. Ben, vous savez, moi, je parle de choses qui m'ont aidé à vivre ma vie. Hein. Donc, moi, il faut plusieurs disciplines et donc cette association traite de plusieurs disciplines. Écoutez une émission sur France Culture qui s'appelle « À voix nue ». Et que j'ai enregistré et à voix nue, Daniel Flomenbaum, on me trouve. Et ben voilà.
Formidable, formidable. Ben, je vous remercie encore, encore une fois d'avoir accepté mon invitation et d'avoir répondu à ces questions. On sent vraiment qu'il y a une grande connaissance de la sexualité de la femme, de ce qui se joue intérieurement quand une femme cherche à s'engager sexuellement. Et c'est passionnant, passionnant, passionnant. Vraiment, je vous invite toutes les auditeurs et les auditrices à lire le livre de Daniel Flomenbaum, Femme désirée, Femme désirante, et à aller voir son site, à aller visiter, éventuellement s'inscrire à ses ateliers. Mais allez-y, foncez. C'est vraiment un sujet très, très riche et passionnant. Au revoir, Daniel, et à très bientôt.
Allez, bonne route à tous et à toutes. Merci, au revoir.
Au revoir. Alors si comme moi vous auriez aimé que cette conversation puisse durer plus longtemps et si les thématiques de la sexualité, du féminin et du couple vous passionnent, je vous invite à écouter l'épisode 13 intitulé « Mon couple s'est endormi » ainsi que l'épisode 20 de ce podcast intitulé « Femmes, je nous aime » et encore l'épisode 27 « Découvrir le tantra ». Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous apporter des ressources pour vous aider à vivre pleinement la vie que vous avez choisie. Si vous écoutez sur Apple Podcasts, laissez-moi 5 étoiles. C'est vraiment le meilleur moyen de m'encourager et de me soutenir. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé pour vous un programme vidéo gratuit sur 5 jours pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous pourrez le trouver sur mon site internet www.christinelevicky.com. À bientôt pour un autre épisode à écouter avant de commencer votre journée.